on y est sur l'info. Le journal
avec MCM.
Les titres vous sont présentés par Antoine Samoyau. Bonjour Antoine.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Prison ferme et interdiction à vie d'exercer la profession d'avocat. Ce sont les lourdes réquisitions prises hier par le parquet à l'encontre de l'avocat Maître Loyant lors du procès pour escroquerie sur personne particulièrement vulnérable. Le délibéré est attendu pour le 6 décembre. Le maire de Moorea, Evans Haumani, continue de faire parler de lui. Radio 1 révèle aujourd'hui comment l'élu a tenté de se bombarder chef de la police en prenant lui-même son arrêté de nomination. C'était en janvier dernier et la subdivision des îles du Vent a réagi et l'arrêté a été retiré. Et bien nous parlerons culture ce midi avec notre invité, le metteur en scène François Boursier. Il nous parlera de sa dernière pièce, Champignons de Paris. Et ce sont bien des champignons nucléaires dont il s'agit. À tout de suite.
Et on démarre avec l'actualité judiciaire et le procès de l'avocat Bruno Loyant qui s'est déroulé hier.
Un procès qui s'est ouvert à 14h pour se terminer tard dans la nuit. Un dossier à la fois simple et compliqué pour le président du tribunal correctionnel. En 2010, l'avocat avait obtenu plus de 30 millions de francs d'indemnisation à deux frères battus par leur grand-mère. Deux jeunes frères livrés à eux-mêmes dont l'un souffrait de graves déficiences mentales. Une belle victoire qui s'est pourtant très mal terminée. Trois ans plus tard, en septembre 2013, l'avocat a réuni les deux frères pour obtenir le paiement de ses honoraires, mais il a modifié a posteriori sa convention d'honoraires pour demander 40% de la somme gagnée aux deux victimes, une convention d'honoraires démesurée pour la profession. Et c'est ensuite lors du passage de Maître Loyant et de son client déficient mental devant la banque Socredo que la propre guichetière de l'établissement s'est inquiétée de la situation. L'employé a prévenu la direction de la Socredo qu'un avocat était venu transférer d'importantes sommes d'argent depuis le compte d'un handicapé qui l'accompagnait vers le sien. La banque a signalé les faits à la DSP, l'affaire a éclaté. Le frère handicapé a été reconnu invalide à 90% par la Cotorep. Maître Loyant a été mis en examen. Il a ensuite été suspendu 3 ans de ses fonctions par le conseil disciplinaire.
Et hier, le parquet a requis de très lourdes peines.
C'est effectivement ce que rapportent nos confrères de Tahiti Info. Le procureur a demandé 3 ans de prison, dont 2 fermes, 10 millions de francs d'amende et une interdiction définitive d'exercer. La représentante du parquet a même brandi la menace d'un mandat de dépôt à la prison de Nootania. Toujours selon Tahiti Info, l'avocat de Bruno Loyant, l'ancien bâtonnier maître Yves Piriou, a défendu son confrère en insistant sur la maladresse de son client sur le plan déontologique. Je cite, il est revenu sur la sanction disciplinaire déjà prononcée en affirmant que maître Loyant n'avait pas agi par pas du gain, mais par fierté pour le travail accompli. Le délibéré a été fixé au 6 décembre prochain.
On poursuit avec ces révélations de Radio 1 sur une manœuvre assez douteuse tentée par le maire de Moorea.
Evans Haumani qui continue décidément à faire parler de lui. Après avoir vivement critiqué ses méthodes, l'opposition menée par John Tolomona affirme avoir saisi la justice contre le Tavana de l'île sœur. À l'origine de cette procédure, une curieuse manœuvre du maire début 2016. Le 20 janvier, très exactement, Evans Haumani a pris un arrêté le nommant fonctionnaire au grade de directeur de police municipale principale. Arrêté précisant qu'Evans Haumani bénéficiait d'une mise en disponibilité pendant toute la durée de son mandat. Évidemment, l'opposition a hurlé, mais c'est la subdivision administrative des îles du Vent qui a empêché cette autopromotion pour le maire. Le représentant de l'État s'est saisi du dossier en émettant des observations quant à la légalité de cet arrêté. D'une part, parce qu'Evans Haumani ne pouvait évidemment prendre une telle décision puisqu'elle le concernait directement. D'autre part, parce que le Tavana ne peut exercer une autre activité que son mandat. Le fameux arrêté a donc été retiré par le maire, mais l'opposition au conseil municipal ne compte pas en rester là. Écoutez l'élu John Tolomona au micro de Vaïté.
Nous avons mis ça en avant auprès du tribunal administratif. Il nous a été répondu que cet arrêté a été retiré du circuit. Donc, on attend.
Et il disait quoi exactement cet arrêté ?
Non, c'est une nomination sur un titre supérieur de sa fonction même et de ses compétences. Mais c'est une manière pour lui de se préparer sa sortie de la commune également.
L'opposition qui annonce une plainte devant la justice. De son côté, le maire de Litzer, Evans Haumani, ne conteste pas les faits mais ne souhaite pas réagir tant que ce dossier est devant la justice. Je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est déjà devant les tribunaux. Et de toute façon, tout ce que je fais ici à Moorea pour aider la population, ils font des recours et encore des recours. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, laissons faire la justice.
Donc, tu n'es pas en train de préparer ta sortie ?
Non, pas du tout. Je ne prépare pas du tout ma sortie. Je travaille pour le bien de la population. Je le précise encore, je ne suis pas en train de penser à moi.
Et on poursuit avec cette nouvelle suspicion de salmonellose à Papara.
Le 14 septembre dernier, l'exploitation de poules pondeuses de Papara a été placée sous surveillance pour une suspicion d'infection à la salmonelle. Une annonce qui intervient 3 semaines après le placement sous surveillance d'un premier élevage de Tarawao. Les volailles et leurs œufs sont donc consignés et comme le veut la réglementation, des prélèvements ont été effectués pour confirmer ou non cette infection.
Et plus léger, on parle télévision avec le retour du jeu Tahiti Quest.
Tahiti Quest saison 3 qui débarque sur Gulli, ce sera le 13 octobre. Et c'est Olivier Mine que les téléspectateurs découvriront aux commandes de ce jeu d'aventure familiale tourné à Moréa l'année dernière. Le présentateur de Fort Boyard succède à Benjamin Castaldi qui avait animé les deux premières saisons de ce jeu créé par Alexandre Talercio, notre animateur. Le principe du jeu reste le même, 5 familles composées de 2 parents et de 2 enfants qui s'affrontent au cours d'épreuves imaginées autour de la culture et des traditions du Fénois. Vous trouverez le teasing de l'émission sur notre site radio1.pf.
On marque une courte pause dans ce journal et nous revenons avec le metteur en scène François Boursillier.
Radio 1, premier sur l'info, l'invité.
Et on reprend ce journal Antoine avec notre invité, le metteur en scène François Boursillier.
Vous vous souvenez peut-être de Lettres de délation, Résister c'est exister ou encore de Race, 3 pièces de théâtre mises en scène par François Boursillier, jouées ces 3 dernières années à Tahiti. À chaque fois, une invitation à la réflexion mais aussi à la prise de conscience pour les spectateurs. Cette fois-ci, le metteur en scène revient avec une pièce spécialement écrite pour la Polynésie, Champignons de Paris. François Boursillier qui est notre invité ce midi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas venu seul, on va peut-être présenter l'auteur du spectacle qui vous accompagne également.
Oui, Émilie Généadig, qui est l'auteur de ce spectacle, qui effectivement m'accompagne.
Bonjour Émilie. Alors, tout d'abord, comment est-ce que vous est venue cette idée d'écrire une pièce et de la mettre en scène sur les essais nucléaires et pourquoi vous avez voulu vous intéresser à ce sujet particulièrement ?
Eh bien, quand je suis arrivé la première fois à Tahiti, il y a donc 3 ans maintenant, avec Résister l'aide de délation, je me suis tout de suite intéressé effectivement au sujet, en fait, très vite. C'est-à-dire, j'avais envie de rencontrer des témoins de ce qui s'était passé parce que je connaissais pas bien, comme beaucoup d'ailleurs de métropolitains connaissent absolument pas l'histoire des essais nucléaires français. Je connaissais pas du tout l'histoire. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer des témoins. Et ce qui s'est passé. J'ai pu rencontrer Marie-Hélène Villerme qui m'a fait rencontrer Bruno Barrio et puis après, de fil en aiguille. Et d'année en année, on a pu effectivement creuser le sujet et j'ai proposé à Émilie, à un moment donné, de faire l'écriture de ce spectacle. C'est-à-dire de ne pas simplement prendre la parole des témoins ou des personnages historiques ou des personnalités politiques brutes comme ça, c'est de pouvoir le mettre en forme pour pouvoir resituer les personnages dans leur contexte historique de l'époque, c'est-à-dire au présent. Hein, au présent des années 60.
Alors justement, peut-être Émilie, comment est-ce que vous avez travaillé, à partir de quelle matière vous avez travaillé à l'écriture de cette pièce ?
Alors moi, comme disait François, en fait, c'est pour le coup, pour moi, c'était vraiment un sujet totalement inconnu. Donc parce que à l'époque des derniers essais, j'avais 10 ans. Donc il a fallu vraiment partir du début et j'ai balayé tout ce que je pouvais trouver comme information, des livres, des vidéos, tout un tas de documents en fait qu'on nous a fournis et qui ont nourri l'écriture de tous ces
des archives actes. Officielles également.
Voilà, y compris des documents déclassifiés, secret défense, qui ont été déclassifiés.
Parce qu'on va pas tout dévoiler sur la pièce. Le fil rouge, c'est évidemment les essais nucléaires à la fois au Sahara et en Polynésie. Et puis l'histoire, en fait, de l'arrivée de ces essais en Polynésie avec l'angle du vécu de la population, mais aussi les prises de décision des autorités qui sont mises en scène.
Exactement. Hein, c'est-à-dire l'idée étant de ne pas vouloir nous apporter des réponses ou d'un point de vue comme ça tout fait et dans un sujet qu'on ne connaît pas, c'était de se poser les questions du pourquoi. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi telle réaction ? Pourquoi telle chose quand on lit tel document ? Et je pense qu'Émilie a fait le même travail quand elle a écrit là-dessus et c'est surtout qu'elle est jeune, parce que là on n'entend pas la radio, mais elle est jeune, donc elle n'est pas du tout née avec les essais nucléaires, donc c'était intéressant d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui ne connaissait rien au sujet pour pouvoir l'écrire, parce que la découverte a été forte, quoi, comme on peut le faire aujourd'hui d'ailleurs, et comme vont le faire beaucoup de gens. Donc effectivement, on s'est posé plein de questions de pourquoi. Et les réponses ne nous appartiennent pas, hein, puisque elles appartiennent bien sûr à ceux qui ont affaire à cette société polynésienne de demain.
On a l'impression sur l'essai nucléaire qu'on en apprend encore, même aujourd'hui. Est-ce que c'était difficile d'écrire sur le sujet ?
Ça, faudrait poser la question à Émilie, parce qu'elle s'est tapé 3 ans de travail autour un peu des documents. C'est un sujet toujours délicat à écrire parce qu'il est brûlant. Avec la collaboration, la résistance est passée, et puis tout le monde se donne une bonne image, et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, un journaliste, j'ai pas pu rencontrer de collaborateurs. Il y en a plus. Enfin, officiellement, il y a plus personne à collaborer en France avec les nazis. Là, c'est pas le cas. Le sujet, il est encore très brûlant. Donc, du coup, on peut rencontrer encore des témoins de part et d'autre, des gens qui sont pour, contre, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et effectivement, dans la pièce, ce qui est bien, c'est que tous les gens sont représentés.
Alors, on va parler un peu de cette pièce justement. Il n'y a que trois acteurs. Mmh. Toali Traki, Guillaume Gay de la Compagnie du Caméléon et le dernier dont le nom m'échappe.
Tepateoru.
Tepateoru, c'est ça exactement, l'un des deux héros.
Voilà, deux héros.
Exactement. Trois acteurs qui donc jouent plusieurs rôles et qui sont assez bluffants sur scène, notamment Toali Traki, hein, qui n'était pas spécialement un acteur de théâtre. Avant de commencer ça, il y a eu un travail assez long, on l'imagine, de faire avec eux.
Eh ben pas tellement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces deux acteurs, dont Toali, qui est danseur, qui est connu comme étant quand même un des premiers danseurs de Lille, tout de suite ils ont le sens de la scène, le sens de du personnage, de l'incarnation du personnage, et donc le travail était très très rapide. Il était plus long avec les personnages, je dirais plutôt représentant les militaires, etc. Parce que il est évident que c'est toujours difficile de garder une sincérité dans les personnages qu'on a envie un peu de juger, bien entendu, ou qu'on a envie d'un peu d'habiller avec les pires saloperies. Et là, ça a été un travail plus difficile. Il a fallu faire un vrai travail à Guillaume de respecter en fait les personnages qu'il jouait, que ce soit des colonels, des officiers, des décideurs. Et en fait, Toari, il est rentré dans cette pièce sans problème. Ça m'a épaté d'ailleurs.
Ils sont extrêmement impressionnants. Ouais. On a pu les voir, en tout cas pour ma part, j'ai pu les voir lors de la répétition générale il y a quelques mois. C'est vrai qu'ils sont assez impressionnants sur scène. Est-ce que cette pièce a la vocation à être jouée en métropole aussi ?
Alors, c'est prévu pour être jouée au Festival d'Avignon l'année prochaine, avec des représentations préalables en métropole au mois de juin. Et puis, on espère bien sûr une grosse tournée derrière. Sur la métropole. Ça va être joué de toute façon aussi à Nouméa, si ma mémoire est bonne, en mai. Et le projet de Guillaume, et ce auquel j'adhère complètement, c'est que ce spectacle puisse aussi tourner dans les îles, partout. Au maximum aussi, pour pouvoir...
Guillaume, on rappelle, c'est Guillaume Gay, de la compagnie Caméléon,
qui joue dedans, donc qui joue les personnages des officiers, entre autres. C'est de le faire tourner au maximum, justement.
Dernière question, François Boursier. À la fin de chacune de vos pièces, et le champion de Paris ne fera pas exception, vous invitez le public à une discussion et à un débat. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça dans vos pièces ?
Oui, parce que je pense que le théâtre, c'est aussi l'agora. C'est-à-dire le lieu de la parole. Hein. C'était là où les citoyens grecs pouvaient aller discuter politique. Là, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui touche tout le monde et qui a touché sûrement des familles. Donc ça me paraît important qu'après la pièce, qui elle met en place l'émotion, hein, c'est-à-dire, comme disait Primo Levi, Primo Levi disait des camps d'extermination, que les nazis lui disaient, voilà, ici, il n'y a pas de pourquoi. Et disait l'enfer, c'est justement l'endroit de l'absence du pourquoi. Et à partir du moment où les personnages sont incarnés et vivent des sensations, des émotions, leur point de vue à eux, forcément ça réveille des émotions, des sensations chez les spectateurs. Et il faut pouvoir le partager après. Il faut que la parole puisse circuler et se libère.
Et est-ce que sur un sujet comme les essais nucléaires, en tout cas en le jouant en Polynésie, vous vous attendez à des réactions qui seront peut-être un peu différentes quand on parle de la résistance, c'est des choses que les personnes qui viennent voir la pièce n'ont pas forcément vécues. Là, les essais nucléaires en Polynésie, ça risque de concerner quand même beaucoup de monde.
Je pense que là, on va avoir, j'espère, en tout cas je le souhaite, des prises de parole qui vont être très intéressantes et qui vont permettre justement d'enrichir le débat et de pouvoir justement avancer. Parce que de toute façon, cet héritage-là, on va le porter. Et on le porte tous, hein, nous y compris aussi en métropole, hein, bien entendu.
Merci beaucoup François Boursier d'avoir accepté notre invitation et également Émilie Genaïdic, je l'ai bien dit.
Ça.
Voilà, je me suis entraîné un peu avant. Je rappelle que la pièce Champignon de Paris, représentation au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, ça commence vendredi 30 septembre. Il y a également une représentation le 7 octobre, les samedis 1er et 8 octobre et les dimanches 2 et 9 octobre. Billetterie en vente chez Radio 1 Faleouté et sur notre site radio1.pf.